dans cette rue tranquille.
Histoire de cinéma, Jean-Philippe Gunet.
Un mystère se révèle.
Coulisses, anecdotes, secrets de tournage.
Houston, je n'ai plus le Dr Stone en visuel. Houston, je n'ai plus le Dr Stone en visuel.
Redécouvrez les plus grands films autrement.
Et une aventure commence.
La semaine dernière, je vous avais raconté comment le producteur Marion C. Cooper a monté au début des années 30 le projet de King Kong. L'histoire d'une équipe de cinéma qui part filmer une île perdue au fin fond du Pacifique, le seul point encore inexploré sur Terre. Ils y trouvent une tribu indigène, mais surtout un gorille géant. La tribu indigène kidnappe l'actrice principale et l'offre en sacrifice à Kong, qui préfère la kidnapper plutôt que de la dévorer. L'héroïne est incarnée par Favre, c'est le rôle qui l'a fait entrer dans l'histoire du cinéma. Au fait, je vous ai beaucoup parlé de Marion Cooper, ancien aviateur devenu producteur et scénariste. Il est producteur, il veut réaliser le film, mais pas seul. Il s'adjoint les services d'Ernest B. Schoedzack, qui avait déjà travaillé plusieurs fois avec lui, notamment sur les chasses du comte Zaroff. À peine le feu vert donné à la production par le studio RKO, 4 reproductions de Kong sont construites. 2 de 45 cm, une de 61 cm et une dernière plus petite destinée à la scène où Kong tombe de l'Empire State Building de New York. Les armatures sont en aluminium, la peau est en caoutchouc. La peau, d'ailleurs, justement, a un inconvénient, elle se dessèche sous la chaleur des projecteurs des studios. Elle doit être changée souvent et les traits du visage de Kong doivent être refaits à chaque fois. Une reproduction grandeur nature de la main de Kong est construite également. Elle est assez grande pour pouvoir attraper Favre au niveau de la taille. L'actrice dira des années plus tard qu'elle s'y sentait bien enserrée. Tout comme les répliques miniatures de Kong, elle est faite en caoutchouc et fonctionne avec des articulations métalliques. Dans le film, Kong affronte des dinosaures qui sont, eux aussi, construits avec les mêmes techniques dans les studios de la RKO. Le tournage de King Kong est long, 8 mois, de mai 1932 à la fin de l'année. Marion Cooper et Ernest Schoedzack commencent par réutiliser le vaste décor de jungle qui avait été construit à Los Angeles pour les chasses du comte Zaroff. En juillet, des plans du port de New York sont tournés pendant que les décors du village indigène finissent d'être préparés. Cooper et Schoedzack filment aussi les séquences des avions qui décollent des terrains militaires de Long Island pour les plans situés juste avant la séquence finale de l'Empire State Building. D'ailleurs, Marion Cooper et Ernest Schoedzack font une apparition dans le rôle de l'équipage de l'un de ces avions. Et justement, l'extrait que vous allez entendre est tiré de la fameuse scène. Un à un, les avions font des passes pour tirer sur Kong juché au sommet du gratte-ciel et dégagent au dernier moment, sauf un, que Kong réussit à attraper et à projeter vers le sol. Au mois d'août, le tournage retourne en Californie sur une plage au sud de Los Angeles, puis dans les studios de la RKO à Culver City, dans la métropole de Los Angeles, où sont filmées les séquences du village indigène. Des centaines de figurants apparaissent dans ces plans. Pour le grand mur qui sépare les indigènes du reste de l'île, des éléments de décor du Roi des Rois de Cecil B. DeMille sont récupérés. ils resserviront plus tard sur Autant n'emporte le vent pour la séquence de l'incendie d'Atlanta. En septembre et octobre, le tournage se poursuit en studio à Los Angeles. La scène où Kong est exhibé dans un théâtre est filmée au Shrine Auditorium de Los Angeles. En novembre et décembre 1932, les acteurs sont mobilisés en studio pour des plans avec des effets visuels. Les effets visuels, il est grand temps que j'en parle, justement. King Kong a marqué l'histoire du cinéma par son utilisation massive d'effets spéciaux. Tous avaient déjà été inventés, mais aucun film n'avait encore su les pousser aussi loin. Quels effets spéciaux, donc ? D'abord, l'animation en stop-motion, image par image. Une miniature de Kong sera prise en photo, puis sa posture très légèrement modifiée, une seconde photo est prise, et ainsi de suite. Il faut 25 de ces photos pour faire une seconde de film. C'est la base de l'animation, utilisée aussi dans le dessin animé. Willis O'Brien est un pionnier de cette technique. King Kong lui donne l'occasion de l'expérimenter à grande échelle. Le film utilise aussi des matte paintings, de la peinture sur du verre, ensuite superposée à l'image filmée par la caméra, ce qui permet de créer les décors que l'on souhaite sans avoir à les construire pour de bon. King Kong s'appuie donc aussi sur des miniatures, des petites reproductions de Kong ou de dinosaures. Et n'oublions pas la rétroprojection. Dans une scène où Favreau est dans la main du gorille, des images sont projetées en face d'elle par rétroprojecteur. Ce trucage peut remplacer de vrais décors qui coûtent très cher. Tous ces effets spéciaux rassemblés en un seul et même film, c'est une grande nouveauté pour un public qui ne s'y attend pas. L'avant-première de King Kong a lieu le 2 mars 1933. Je vous laisse deviner où ? À New York, bien sûr. Le film sort dans le reste des États-Unis le 7 avril, puis un peu partout dans le monde jusqu'au printemps 1934. En France, c'est le 29 septembre 1933. Le film est un succès au box-office. Il a coûté 672 000 dollars, il en rapportera plus de 5 millions à sa sortie initiale. Un chiffre anodin par rapport au standard actuel du box-office, mais conséquent pour l'époque. Il ressortira plusieurs fois et son succès commercial sera confirmé à chaque fois. Après sa sortie en 1933, le fameux Code Hays, qui imposait des règles très strictes sur le thème de la décence dans les films, fera que plusieurs scènes seront censurées, dont une où Kong déshabille Favreau. Ces scènes seront même considérées comme perdues, ce n'est qu'en 1969 qu'elles seront retrouvées et réintégrées au montage. Mais surtout, King Kong restera comme une œuvre fondamentale dans l'histoire du cinéma. Un conte, une version moderne de La Belle et la Bête. À la fin, Carl Denham, le réalisateur qui a voulu ramener Kong à New York pour l'exhiber, dit « Ce ne sont pas les avions qui l'ont tué, c'est la Belle qui a tué la Bête. » Le mot est clair, Kong a été perdu par son attachement pour Anne Darrow, l'héroïne jouée par Favreau. King Kong est aussi un tournant dans le cinéma de genre à grand spectacle, dans les films de monstres et dans l'utilisation des effets spéciaux. À lui seul, il est une synthèse de ce que le 7e art sait faire de mieux à l'époque. Sa puissance cinématique et émotionnelle sera une source inépuisable d'inspiration. Il aura une suite, Le Fils de Kong, sorti moins d'un an plus tard. Il fera l'objet d'un premier remake en 1976, puis d'un second en 2005, réalisé par un fan de longue date, Peter Jackson. Ces remakes, d'ailleurs, je vous en parlerai dans mes prochaines chroniques sur Art District.
C'était Histoire de cinéma avec Jean-Philippe Gunet, à retrouver chaque semaine et en podcast sur notre site internet artdistrict-radio.com.